Amen. Béni soit le Seigneur. Vous pouvez prendre place. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'Écriture sainte, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 16, où nous lisons les faits suivants. Il est question de Pilate qui a livré Christ. Il est marqué « Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. » Et il s'est passé quelque chose entre ces deux versets qui nous est mentionné dans Luc chapitre 23 et au verset 26 où il est écrit « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière lui. » Je voudrais vous poser une question. Pourquoi ont-ils obligé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus? Pourquoi ont-ils obligé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus? L'opinion fréquente, c'est que le Seigneur Jésus, alors qu'il s'avançait vers le Golgotha, se serait affaissé sous le poids de la croix, affaibli qu'il était par les tortures, les coups, la flagellation, la couronne d'épines. Et Simon de Cyrène serait arrivé au bon moment pour qu'on le charge de cette croix et qu'on la lui fasse porter jusqu'au lieu de l'exécution. Mais en fait, la parole de Dieu nous montre qu'il n'en a pas été ainsi. Au contraire de ce qu'on prétend dans nombre de ces représentations qu'on appelle chemin de croix et où beaucoup de religieux ont passé ces jours récents. Hein. Parce que dans la parole de Dieu, il n'est question en rien de quelque chose de semblable. Et j'attends de pied ferme, Bible en main, celui qui pourra me démontrer que le Seigneur Jésus se serait effondré à un moment ou à un autre en portant sa croix. Au contraire, dans Jean 19, au verset 17, il est écrit « Jésus portant sa croix ». Il n'est pas dit qu'il s'est affaissé. De plus, sur le chemin de Golgotha, il est marqué qu'il se tourna vers la foule, qui lui parla nettement et non pas d'une voix à peine audible. C'est ce qu'on voit dans Luc 23, versets 28 à 31. Et de plus, immédiatement avant la crucifixion, il a refusé la boisson anesthésiante qui lui était présentée. Ça, c'est dans Marc chapitre 15, verset 23. Et quand on lui a enfoncé les clous dans les mains et dans les pieds, il a prononcé une prière qui a été entendue. Luc 23, versets 33 et 34. Alors que sur la croix, il endurait de terribles souffrances, il s'adressa à l'un des deux brigands, rappelez-vous, dans Luc 23, verset 43, ainsi qu'à Marie, sa mère, et à Jean, dans Jean 19, versets 26 et 27, et ceci d'une façon distincte, d'une façon sensée. Par conséquent, Jésus, sur le chemin du Golgotha, ne s'est pas effondré. Et la chose ne figure dans aucun des quatre évangiles, et tout le contexte de l'Écriture sainte nous affirme nettement le contraire. Et on peut tout au plus dire qu'il s'agit là d'une invention de religieux, d'hommes qui ont prétendu intervenir dans l'œuvre de la rédemption, mais qui en fait n'ont rien à y faire de cette manière-là en tout cas. Hein, donc, et notre question reste donc et demeure, pourquoi Simon de Cyrène dut-il se charger de la croix du Seigneur? Hein ? Et si ça s'est produit, si ça nous est rapporté, c'est qu'il y a là un sens à la fois prophétique et aussi spirituel profond pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous montrer clairement les buts qu'il se propose pour nous aussi dans cette œuvre de la croix. Pourquoi donc cette croix fut-elle retirée à un moment des épaules de Jésus et placée sur celle de Simon de Cyrène? Alors nous pourrons en distinguer successivement plusieurs raisons très instructives salutairement pour nous aussi aujourd'hui. Et voici déjà la première. La première, c'est parce que la croix a sa place dans l'humanité. La croix a sa place dans l'humanité. Ce n'est pas sans raison que tant de mots différents sont utilisés dans les évangiles. Ainsi est-il écrit en Matthieu 27 au verset 32 « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Un homme de Cyrène. Nous voyons que cette croix a été retirée des épaules de Jésus et mise sur celle d'un homme. Pourquoi ? Eh bien parce que le salut et le pardon devaient profiter à l'humanité. À l'humanité. Cette croix signifiait une malédiction pour Jésus, mais pour les humains, c'est la rédemption. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Voilà. Et Simon de Cyrène, c'est donc le représentant de tous les hommes dans cette scène qui a été voulue par Dieu. Et il s'agit de bien plus que d'une simple vision superficielle de la croix. Il s'agit de bien plus qu'une simple connaissance de la chose. On raconte l'histoire de cette anecdote, enfin cette anecdote d'un historien de l'art qui était agonisant. Et voici que le prêtre, appelé à son chevet, lui a mis une statuette du crucifié devant les yeux. Et le mourant porta un regard scrutateur sur le crucifix et murmura dans son oreiller « De l'ivoire, œuvre de Wurtzbourg, style Louis XVI, de valeur moyenne. » Et après ces paroles, il décéda. Voilà. Et la vie entière de cet homme se reflétait avec, je dirais, une solennité saisissante dans cette scène qui se déroulait aux portes de l'éternité. Et de nos jours, d'innombrables personnes ressemblent à cet historien mourant de ce point de vue-là. Parce que connaissent-elles de la croix, sinon une image, sinon une apparence extérieure, trop souvent superstitieuse d'ailleurs, mais qui n'a jamais eu d'influence vraiment profonde sur leur vie. Elles ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans la croix. Elles ne connaissent pas cette puissance pour le pardon des péchés. Elles ne connaissent pas la puissance de guérison qu'il y a dans les meurtrissures de Jésus. Elles ne connaissent pas la puissance de délivrance des vices, la puissance de transformation de vie, la puissance pour faire naître de nouveau qu'il y a dans cette croix-là. Puissance et sagesse de Dieu pour le plein et glorieux salut de quiconque croit. Et le fait que cette croix a été ainsi mise sur les épaules de Simon, c'est la preuve que Dieu veut, oui, combien il désire, que l'homme puisse recevoir toutes les bénédictions de la croix. Amen. Donc ça, c'est une première raison. Première raison pour laquelle Simon a dû porter cette croix. Ensuite, deuxième raison maintenant, parce que la croix doit être appliquée d'une manière personnelle. Il nous a dit dans Matthieu 27, verset 32, « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Le texte biblique indique très clairement de qui il s'est agi, de qui il s'agissait, et ainsi donc, quand il s'agit de la croix de Golgotha, c'est très personnellement que tout homme est concerné. Un homme de Cyrène appelé Simon, quel que soit ton nom, quel que soit ton prénom, que tu sois homme ou femme, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'a appelé, il t'appelle et il veut mettre son salut sur toi. Il veut faire une œuvre pour toi personnellement. Il veut agir de manière particulière pour toi. C'est bien pour toi que le Seigneur parle et c'est dans ta vie qu'il veut appliquer sa croix. Il est nécessaire que ça s'accomplisse d'une façon personnelle. En effet, nous lisons par exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 au verset 12 qu'au jour du jugement, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc ça veut dire quoi? S'il est vrai que chaque individu doit passer par la mort et parvenir à la barre du jugement, n'est-il pas normal que l'œuvre de la croix se fasse pour chacun? Et c'est vrai, vous échapperez au jugement divin si vous laissez le salut et le pardon descendre sur vous en répondant à l'appel que le Seigneur vous adresse personnellement. Amen. C'est Henry Goodhart, qui était un marchand de Londres, un homme qui était porté à se moquer de la Bible, des choses de Dieu. Et un dimanche, pour faire plaisir à sa nièce, qui était chrétienne, il s'est rendu à l'église. Voilà. Et la jeune fille a été très désappointée quand elle a appris que le message du prédicateur était basé sur le cinquième chapitre de la Genèse. En écoutant la lecture de cette liste monotone de noms, elle se disait « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que le prédicateur choisisse un passage tellement peu intéressant ?» Voilà. Elle craignait que son oncle, qui ne venait là que d'une manière tout à fait exceptionnelle, craignait donc qu'il ne ferme son esprit à ces versets qui étaient plutôt mornes. Et puis en retournant à la maison, elle était loin de se douter que chaque pas de son oncle et chacun des battements de son cœur semblaient lui répéter le lugubre refrain « Et il mourut, et il mourut ». Et le lendemain, il n'a pas pu se concentrer sur son travail. Et ce soir-là, il a cherché la vieille Bible de famille, et après l'avoir trouvée, il a lu à nouveau « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Tous les jours d'Enoch furent de 900 ans, puis il mourut. C'était la même chose pour les bons et pour les méchants. Il vécut, puis il mourut. Et Henry Goodhurst dit en lui-même, « Aujourd'hui, je vis, mais un jour, je devrais mourir moi aussi. Et alors, où serai-je pour l'éternité ?» Et cette nuit-là, il a demandé au Seigneur Jésus de lui pardonner et de faire de lui son enfant. Et sa nièce a pu se réjouir ensuite quand elle a su qu'il s'était converti. Et elle s'est rappelée à nouveau que le Saint-Esprit peut se servir des passages les plus invraisemblables ou qui nous paraissent tels, comme une généalogie, pour convaincre quelqu'un de péché. Et mes amis, aujourd'hui, vous êtes en vie et moi aussi, mais il nous faut mourir un jour. Avant que le Seigneur ne revienne nous chercher, que se produira-t-il alors ? Ah, voilà la grande question. Et puis, je dirais une troisième raison pour laquelle Simon de Cyrène a dû porter cette croix. C'est parce que la croix concerne aussi les familles. La croix concerne aussi les familles. Dans Marc 15, verset 21, nous lisons en effet, « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » D'autre part, dans Romains chapitre 16, verset 13, nous lisons, « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Et ça, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une œuvre magnifique qui s'est accomplie dans cette famille. Alors, je ne sais pas si toute la famille s'est convertie, mais en tout cas, il y a vraiment eu une très belle œuvre dans leur cœur pour que plusieurs, au moins dans cette famille, parviennent à la foi. Et la croix dont Simon était porteur a transformé sa propre vie et aussi toute sa famille. Et la croix doit entrer dans les familles si elles veulent parvenir au salut. Combien on trouve des problèmes dans les familles, des problèmes de maladie. Vous savez, je vois combien souvent dans les familles, vous avez des problèmes de mésentente, vous avez des problèmes de rancune, vous avez des problèmes de ce genre-là, de manque de pardon, que de foyers brisés à cause de l'alcool, à cause de l'infidélité, de problèmes financiers, de la violence, que de familles à la dérive à cause de l'orgueil, de la jalousie, du mensonge, de manque de confiance, que de jeunes livrés à eux-mêmes parce que les parents ne s'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas de temps pour eux. Et je dirais que d'enfants de chrétiens même qui s'éloignent du Seigneur parce que les parents sont plongés dans la tiédeur, parce qu'ils sont plongés dans l'indifférence spirituelle. Et comme tout ceci pourrait changer dans ces vies et dans ces foyers si Jésus y entrait et si la croix du Seigneur pouvait vraiment faire son œuvre là. Et dans la parole de Dieu, vous avez des témoignages sur lesquels je ne vais pas m'étendre maintenant, ce n'est pas notre sujet principal, mais de ce qui s'est produit lorsque Jésus est entré dans des familles. Et aujourd'hui encore, beaucoup ont pu faire l'expérience que si on donnait au Seigneur cette occasion de faire toute chose nouvelle dans la famille, il agissait pour le faire, et c'était également son désir. Amen. Et si je continue, voici ma quatrième raison. Si Simon de Cyrène a dû porter la croix, c'est parce que celle-ci s'applique aussi à l'origine et à l'élimination du péché. Eh oui, dans Luc 23, au verset 26, nous lisons, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Il est dit, « Qui revenait des champs ?» Et cette précision ne nous est pas donnée par hasard, mais le Seigneur veut encore nous enseigner par elle. En effet, les champs nous rappellent l'origine du péché. Dans Genèse 3, verset 14, nous lisons « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Un peu plus loin, dans le même chapitre, verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et un peu plus loin, encore, hélas, Genèse 4, verset 8, « Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Simon revenait des champs. N'est-ce pas aussi une image de nous-mêmes qui revenons du péché, qui pratiquons le péché, qui sommes coupables, infiniment plus coupables d'ailleurs que nous ne l'imaginons. La tête, notre tête, c'est le siège de nos pensées, c'est le siège de notre imagination, et combien tout cela peut être entaché de péché, vous savez. Il a été précisé scientifiquement que l'homme peut produire, si on peut dire, former environ 10 000 pensées par jour. Donc, sur la base d'un seul pour cent de ces pensées qui soient condamnables, ça veut dire qu'on arriverait, vous voyez bien, c'est vraiment une estimation extrêmement faible par rapport à ce qui est probablement la réalité, on arriverait à 36 500 pensées coupables par an. Alors, est-ce qu'il est envisageable de faire réparation dans ce domaine devant le Dieu saint et juste, alors qu'un seul péché nous emmènerait en perdition? La pensée, vous savez, elle débouche souvent sur un acte. Il est dit dans Matthieu 5, verset 28, le Seigneur Jésus a affirmé « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, donc dans sa pensée. Hein, » donc, est-ce qu'on n'a jamais eu de mauvaises pensées? Est-ce que nous n'avons jamais éprouvé de la haine dans notre cœur? Est-ce que nous n'avons jamais envié, souhaité du mal à quelqu'un? Est-ce qu'on ne s'est pas trouvé en imagination dans des lieux peu recommandables pour y faire des choses dont on ne souhaiterait pas qu'elles soient révélées? Jugez sur les apparences. De nombreuses personnes peuvent paraître droites et honorables. Par contre, la réalité est souvent tout autre, ainsi que nous l'a prouvé il n'y a pas longtemps, ce fait réel, dans une petite ville, vous avez quelques gays lurons qui ont fait une très mauvaise farce. Ils ont envoyé une lettre anonyme à trois citoyens importants de l'endroit avec ces seuls mots « Tout est découvert ». Tout est découvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'un de ces trois personnages s'est suicidé. Les deux autres ont disparu, manifestement par la crainte de l'éventualité d'une accusation qui soit portée contre eux ou d'un scandale public, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment chargé de péché que nous revenons des champs. Mais si nous venons à la croix du calvaire, eh bien nous pouvons recevoir ce plein pardon et ce plein salut qu'il accorde encore aujourd'hui, béni soit son nom. Et il ne faut rien de moins que la puissance de Dieu, que la puissance de la croix pour accomplir cette œuvre salutaire-là. Nous ne pouvons pas y parvenir par nos propres efforts. C'est Spurgeon qui racontait l'histoire d'un missionnaire qui était allé visiter quelqu'un dans une hutte primitive. Il était dégoûté par le sol crasseux sur lequel il devait s'asseoir et il a suggéré à son hôte de frotter le sol avec de l'eau et du savon, mais l'homme lui a répondu « Mais non, c'est de la terre battue. C'est que de la terre battue et séchée. Si vous mettez de l'eau, ça va devenir de la boue. Hein, plus vous essayerez de le laver, plus vous ferez du gâchis. Ce que la hutte aurait eu besoin, c'est de quelque chose de plus qu'un sol à terre battue. Elle a besoin d'un plancher, quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Et c'est la même chose dans le cœur de l'homme, vous savez. Le cœur de l'homme, il est dur, il est sec, on ne peut rien faire pour le transformer. L'homme a besoin d'un cœur nouveau, il a besoin de naître d'en haut. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous précipiter à la croix, pour que par sa puissance, eh bien, le péché soit éliminé et que notre vie soit changée à la gloire de Dieu. Amen. Hein ? Je vais donner ce témoignage qui s'est produit il y a maintenant déjà un certain nombre d'années, malgré tout, c'était peut-être une 15-20 d'années après la guerre. Voilà. Alors, c'est le témoignage d'un évangéliste qui s'appelait M. Ringoire et qui se rendait par la route chez des amis en Allemagne. Il raconte que se voyant tard dans la soirée, pris par le sommeil, il a décidé de quitter l'autoroute et de garer sa voiture à l'orée d'un bois. Voilà. Et après la lecture du psaume 23, sans même fermer sa porte à clé, il s'est endormi. Et au milieu de la nuit, le voilà soudain réveillé par un cri impératif. Geld oder Leben, ça veut dire la bourse ou la vie. Hein, voilà. Et puis il ouvre les yeux, il voit scintiller le canon d'un revolver qui est braqué sur lui. Alors, confiant dans le bon berger qui veillait sur lui, et puis sachant aussi que la réponse douce calme la fureur, donc il a dit, mais écoute, mon ami, réfléchis un peu. Hein, donc, voyons, est-ce que tu crois qu'un riche va passer la nuit à la Belle Étoile et pas à l'hôtel? Hein, donc, tu t'es trompé. Il dit, puis tu sais, il a dit, je n'ai pas peur parce que j'ai quelqu'un qui me garde. Mais toi, mon ami, tu dois être bien malheureux pour en arriver là. Alors, raconte-moi ce qui t'arrive. Tiens, monte dans ma voiture. Mais tiens, je voudrais d'abord me donner ce petit joujou-là que tu tiens. Hein, on sera plus tranquille. Aussitôt fait, le jeune homme monte et puis il raconte sa vie. Pauvre vie, vous savez. Des malheurs successifs qui ont jalonné sa route, les conséquences de la guerre, des épreuves, et puis des péchés, hein, péchés aussi bien sûr. Et notre évangéliste saisit l'occasion pour lui annoncer le message libérateur. Et le jeune homme est touché. Et puis il dit, mais on pourrait peut-être aller dans une église pour y prier. Alors il lui a dit, mais mon auto c'est mon église. Hein. Il lui a dit, monsieur Renoir, où que tu sois, tu peux t'adresser à Jésus. Prions-le tout de suite si tu veux et remercions-le. Et donc voilà, ils le font. Et puis un peu plus tard, un peu plus loin, ils passent devant le Rhin. Voilà. Et puis alors, monsieur Renoir dit au jeune homme, si nous jetions à l'eau ce joujou inutile, alors qu'est-ce que t'en dis ? Ah, tout à fait d'accord. Le jeune homme envoie promener le pistolet au milieu des remous du fleuve. Et puis l'évangéliste lui dit, maintenant, tu vas aller me le chercher. Va me le chercher maintenant. Alors le jeune homme est stupéfait, il ne comprend plus rien. Et l'évangéliste lui dit, eh bien tu vois, pour nos péchés, c'est exactement comme ça. Jésus les a jetés au fond de la mer. C'est dit dans sa parole, et il les a oubliés à tout jamais. Lui seul peut ainsi purifier parfaitement et pour toujours, et te donner une nouvelle vie vraiment utile. Et la suite de l'histoire, hein, sur laquelle je ne m'étends pas, c'est que ce jeune homme a réalisé l'amour insondable de Jésus. Il a été emmené le lendemain donc, chez les amis de M. Ringoire, et il est devenu finalement un comptable chrétien dans une grande affaire commerciale. Vous voyez ? Donc, ce que le Seigneur fait pour changer les vies. Et puis, j'avance et je vois ma cinquième raison maintenant. Ma cinquième raison, donc, si Simon de Cyrène a porté cette croix, c'est parce que la croix doit nous être appliquée. Hein, donc, Matthieu, chapitre 27, verset 32, « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Et ça, c'est une image pour nous rappeler qu'il est absolument indispensable de se charger de cette croix. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité parmi d'autres. Mais à cause de notre péché, c'est une nécessité absolue. Si Jésus a payé un si grand prix, ce n'est certainement pas pour que nous considérions la croix comme quelque chose d'accessoire. Dans Actes 17, au verset 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. » Oui, ils ont tous à se repentir, tous les uns les autres. Hein, et je dirais, c'est notre premier devoir, le plus pressé, le plus urgent pour échapper à la juste colère de Dieu et au jugement qui est autrement sur nous. Amen. Et puis, une sixième raison encore, sixième raison pour laquelle Simon de Cyrène a porté cette croix, c'est parce qu'elle est indispensable pour être un disciple du Seigneur. Dans Luc 23, verset 26, ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière lui. Pour qu'il la porte derrière lui. Et Jésus avait dit d'ailleurs, quiconque ne se charge pas de ma croix et ne me suit, de sa croix, pardon, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. À Sainte-Hélène, Napoléon, donc lorsqu'il était sur la fin de sa vie, a reçu par l'intermédiaire de son chapelain une Bible à la reliure très soignée, à ses initiales, et il l'a beaucoup lue. Et il était frappé par la personne, par l'œuvre de Jésus-Christ. Et il communiquait souvent à ses compagnons de captivité ses impressions à cet égard. Et un jour, il s'est adressé au comte de Montholon et il lui a dit la chose suivante, qui a été inscrite et que je vous cite. « J'ai, dans les jours de ma gloire, passionné des multitudes, au point qu'elles mouraient pour moi. Mais pour enthousiasmer le soldat, il fallait ma présence, ma parole, mon prestige. Et maintenant, qui est-ce qui m'est resté fidèle ? Telle est la destinée des grands hommes, on nous oublie. Louis XIV était à peine mort, qu'il fut laissé seul dans sa chambre mortuaire. Ce n'était plus le maître, c'était un cadavre. Encore quelques jours et ce sera mon tour. Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ ? Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu ? Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite, tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir rien à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul qui a été plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a grandi. En quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouvez Jésus prêché, aimé, adoré. Sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et des milliers d'hommes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour lui. Voici un conquérant qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle ! L'âme humaine, avec toutes ses facultés, devient une annexe de l'existence de Jésus-Christ. Et comment ? Par un prodige qui surpasse tous les prodiges. Christ veut l'amour des hommes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Il demande le cœur, c'est là ce qu'il veut. Il ne demande rien d'autre et il l'obtient. J'en conclus sa divinité. Alexandre, César, Hannibal, Louis XIV, avec tout leur génie, ont conquis le monde. Ils ne sont pas parvenus à avoir un vrai ami. L'union qui unit Jésus-Christ à ses rachetés est plus impérieuse que quelque union que ce soit. Et tous ceux qui croient sérieusement en lui ressentent cet amour surnaturel. Ils aiment quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. C'est un fait inexplicable à la raison, impossible aux forces de l'homme, et pourtant il s'accomplit. Voilà ce que j'admire au-dessus de toute chose, moi, Napoléon. Plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Et ceci, je crois, pour nous rappeler la nécessité de suivre Jésus, pas seulement d'aimer les gens qu'on peut avoir autour de soi dans une assemblée comme la nôtre, pas seulement aimer les réunions, les témoignages, les prières, pas seulement même aimer la Bible, mais se tourner vers le Seigneur pour s'engager dans son chemin de service, de souffrance, d'obéissance et de travail pour lui. Ne pas vouloir en priorité être béni par lui ou servi par lui, mais vouloir véritablement le bénir, vouloir véritablement le servir de tout notre être et donner notre vie pour lui. C'est de tels disciples que le Seigneur prend plaisir et c'est sur eux qu'il va mettre son approbation. Amen. Enfin, la septième chose, si Simon a dû porter cette croix, c'est pour nous rappeler que c'est un appel, cette croix, à tous ceux qui passent. Car il est écrit dans Marc 15, verset 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, un passant. Parce que lui, Simon, il ne voulait pas s'arrêter. Hein. Simon, il voulait passer sans s'arrêter. Mais il s'est trouvé directement confronté à la croix. Il s'en est chargé et toute sa vie en a été changée. Vous savez, dans cette salle, que de gens qui sont déjà passés devant la croix de Jésus, mais sans s'arrêter. Certains d'une façon superficielle, je dirais presque distraite, par curiosité peut-être, ou par un intérêt momentané, mais ils n'ont fait que passer, ils n'ont même pas voulu considérer le message de la croix, à plus forte raison, évidemment, n'ont-ils pas voulu s'en charger, ils se sont dépêchés de passer leur chemin. Voilà. Après, certains sont restés un peu plus longtemps, ils ont peut-être réalisé que Dieu agissait dans l'Assemblée, dans l'Église, ils ont pu entendre des témoignages de miracles que le Seigneur a accordé en réponse à la prière. Ils avaient peut-être un besoin de santé ou autre. Ils ont demandé, compris pour eux. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, les a soulagés, il les a secourus. Mais leur besoin est immédiat étant satisfait, ils n'ont pas voulu approfondir la chose. Et quand le message de la croix de Christ, qui est quand même le centre du message de l'Évangile, lorsque ce message a retenti à leurs oreilles, ils ont négligé. Ils ont remis à plus tard, ils se sont détournés de Christ. Bref, ils ont continué dans la voie de la perdition. Et puis, vous avez certains qui ont été plus sensibles, au moins jusqu'à un certain point. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu ce message de la croix. Et vous avez ce point qui a spécialement retenu leur attention, c'est que Christ est mort sur la croix pour le salut de l'humanité, pour nous racheter de nos péchés, pour effacer notre culpabilité, pour nous sauver de la perdition. Et ça, ça les intéressait, parce qu'ils se savaient pécheurs, coupables devant Dieu, dans le fond. Donc, ils savaient plus ou moins confusément qu'ils étaient perdus. Alors oui, ils voulaient bien être sauvés. Voilà. Ils voulaient bien avoir dans leur cœur l'assurance du salut et de la vie éternelle au ciel et loin de l'enfer. Parce que si on doit choisir entre le fait d'être sauvé et celui d'être perdu, qui ne ferait le choix d'être sauvé ? Donc ils étaient prêts à accepter la croix pour être sauvés, oui, pour être sauvés. Mais quand ils ont réalisé que le message de la croix avait un autre aspect qui était inséparable du premier, c'est-à-dire qu'il faut donner sa vie à Christ, c'est-à-dire qu'il faut le suivre dans le chemin de l'obéissance, qu'il faut s'engager dans la vie de disciple de Christ, il ne faut pas seulement bénéficier de la croix de Christ, mais il faut aussi la porter. Et là, pas mal de ceux qui voulaient être sauvés ont fait un pas en arrière. Et d'une manière ou d'une autre, ils se sont détournés et les voilà qui passent leur chemin. Vous savez, quand j'étais ce qu'on appelait à l'époque l'école normale d'instituteurs de Strasbourg, c'est là que je me suis réellement donné à Jésus-Christ et que j'ai accepté de ne plus être un simple passant, mais de porter la croix derrière lui. Et je n'étais pas tout seul, nous étions plusieurs dans notre promotion à venir à Christ dans la repentance et dans la foi. Et ça fait que nous avions à cœur de témoigner aux autres. On parlait beaucoup de Dieu et de Christ. Et ça ressortait même dans les questions, dans les discussions, spécialement dans les cours de philo. Voilà. Au point qu'à la fin de l'année scolaire, la prof de philo, qui était pourtant pas loin de la retraite, donc c'était quelqu'un qui avait de l'expérience, elle nous a dit, écoutez, cette année scolaire avec vous a été tout à fait passionnante et ma conception de Dieu a changé, nous a-t-elle dit. Après, elle ne nous a pas dit plus, je pense que c'était son devoir de réserve qui la tenait. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire aussi quoi ? C'est pour dire surtout que mes collègues de promotion ont tous été clairement mis en face du message de l'Évangile. Ils ont tous été mis en présence de la croix de Christ. Et qu'en ont-ils fait chacun ? Alors quelques-uns, Dieu merci, se sont réellement tournés vers lui, l'ont vraiment reçu comme leur sauveur et seigneur, ils ont pris sa croix. Mais hélas, je sais que la plupart ne l'ont pas fait, en tout cas à ce moment-là. Donc ils ont été des passants. C'est des passants qui ne se sont pas arrêtés. Alors les années ont passé depuis, vous savez. Des carrières complètes d'enseignants se sont déroulées. Ces gens-là sont tous à la retraite aujourd'hui. Alors je n'ai pas eu forcément de nouvelles régulières des uns ou des autres. Mais de temps en temps, me sont quand même parvenus des indices de ce qu'on pourrait appeler des trajectoires de vie. Et avec de ce que j'ai appris, je peux quand même vous dire une chose, c'est que jamais aujourd'hui, je n'échangerai ma vie avec celle de l'un de ceux qui n'ont fait que passer devant la croix de Christ et qui ne se sont pas saisis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'épreuves, ma femme et moi par exemple, dans notre vie, qu'on n'a pas eu de combat, qu'on n'a pas eu de fatigue, de travaux, d'imprévus et parfois aussi des larmes, des déceptions bien sûr, voilà, plus probablement même que la plupart de ceux qui n'ont pas suivi le Seigneur, je crois. Parce que certains d'entre eux, on pourrait dire, sont, comme on dirait aujourd'hui, bien peinards, bien tranquilles, belle maison, belle voiture, belles vacances, loisirs, etc. Mais nous, vous savez, on a vu Dieu à l'œuvre. On a vu Dieu à l'œuvre, et c'est ça la grande chose. Nous avons vu Dieu agir admirablement et magnifiquement. Nous avons vu les promesses de Dieu se réaliser. Quand Jésus dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Eh bien, nous avons vu cela bien des fois. Alléluia. Quand il est marqué « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Eh bien, nous avons vu Dieu se glorifier magnifiquement dans des situations désespérées et sans issue. Nous avons vu le plus merveilleux. Nous avons vu des âmes se tourner vers Christ et passer par la nouvelle naissance, ce mystère extraordinaire de l'action du Saint-Esprit, des gens qui ont été admirablement changés radicalement à la gloire du Seigneur. Nous avons expérimenté aussi la vérité de ce verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est dans le psaume 34 au verset 20. Parce que ça, tout n'a pas été toujours rose et toujours facile. Vous savez, la tentation de chacun d'entre nous, c'est de s'arrêter au début du verset. Le malheur atteint souvent le juste. Seigneur, comment ça se fait que le malheur atteint souvent le juste ? C'est pas normal, Seigneur. Mes frères et sœurs, considérons la fin du verset. L'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Moi aussi, vous savez, quand j'ai prié hier, de 3 ans en arrière. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que ma femme soit atteinte de leucémie ? Et d'une leucémie si grave que le docteur nous a rouspété, presque hors de lui, de ne pas être venu avant. Et si grave que ma femme était couchée à la maison, ne pouvait plus entendre un bruit. J'étais obligé de demander aux frères qui voulaient faire des travaux d'aménagement dans la salle de les arrêter à cause de ça. Et je ne vous dis pas le reste. Bien des fois, vous savez, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu le sais, tu vois, on a essayé de tout te donner, on a essayé de tout te consacrer, et tant d'autres prières qui viennent à ce moment-là dans nos pensées. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Il y avait une œuvre qui devait se faire, et qui doit se faire encore en moi, dans ma vie. et aussi celle dans celle de ma femme, elle me l'a dit aussi. Vous savez, l'Écriture nous dit « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, c'est la vérité, mes amis. Ça, c'est la grande et glorieuse réalité. La semaine dernière, je suis retourné voir le docteur. Bon, c'était pour moi une visite de contrôle. Grâce à Dieu, ça va bien. Et ce docteur, il est athée, hein. Mais on discute très bien tous les deux, on discute bien ensemble. Et il avait un peu de temps, ils ont parlé de plusieurs choses, et en particulier de la santé de ma femme. Et voilà ce qu'il m'a dit. « Monsieur Leclerc, quand vous êtes venu la première fois, elle et vous, j'étais vraiment pessimiste. Elle a eu le taux de globules blancs le plus élevé que j'ai vu de toute ma carrière. Donc une longue carrière, parce que c'est quand même un homme qui approche la soixantaine, qui a beaucoup de clients. Hein. Mais aujourd'hui, je constate qu'elle va beaucoup mieux. Le traitement fait son œuvre. Le taux de globules blancs est bien descendu et diminue. » Alors, je n'ai pas dit gloire à Dieu sur le coup parce qu'il n'y croit pas. Puis, je ne méprise pas non plus les traitements médicaux. Hein. Mais je sais bien, mes frères et sœurs, mes amis, je sais bien qu'il a fallu plus que ça pour faire passer mon bon docteur d'un si grand pessimisme à un optimisme. Je sais bien qu'il a fallu ça. Hein. Alors, la partie n'est pas finie. Il y a encore un combat à mener et d'autres combats. Mais je peux bénir Dieu. Je vais bénir Dieu et vous confirmer que jamais je n'échangerai ma place avec celle de quelqu'un qui n'a pas voulu se charger de la croix quand elle s'est présentée devant lui. Hein? Donc, parce que la vie véritable qu'on a avec le Seigneur, c'est sans commune mesure avec l'existence de ceux qui ne sont pas venus à lui. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont prié pour nous dans ces moments-là, vraiment de leur dire, de leur répéter combien ces prières sont précieuses et importantes, et que soient remerciés en particulier tous ceux qui prennent le temps et qui font le sacrifice de venir à la réunion de prière du mercredi, celle du vendredi, où on lutte aussi spirituellement pour ceux qui s'approchent pour qu'on prie pour eux. Et que de victoires anciennes et récentes ont été gagnées là, et essentiellement là, et combien les promesses de Dieu sont accomplies principalement suite aux prières persévérantes et ferventes de ceux qui s'assemblent en son nom. Et je voudrais vous dire qu'au niveau spirituel, ces réunions peuvent être plus décisives et plus cruciales qu'un culte. Et c'est pour ça que je pense que nous devrions tous ici présents être reconnaissants à ceux qui font le sacrifice de participer activement et régulièrement à ces réunions. J'ai bien dit le sacrifice. Parce que de toute façon, celui qui se charge de sa croix, c'est aussi pour faire des sacrifices pour le Seigneur. Hein, puisqu'il est d'ailleurs, pour le Seigneur et pour les autres. D'ailleurs, est-ce que j'offrirai à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien, hein, donc, mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine, mes amis. Hein. C'est un sacrifice qui aura de grandes répercussions en bénédiction. C'est un sacrifice fructueux. En vérité, si le grain de blé semé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. C'est le grand drame de l'humanité. Là, nous tirons vers notre conclusion. Le grand drame de la vie d'innombrables individus, c'est que l'on voit, c'est que l'on reconnaît la croix de Jésus, mais que l'on passe outre. On ne s'en charge pas, on n'arrête pas pour s'en charger pour obtenir le salut. Et aujourd'hui encore, Dieu permet que nous passions le long du chemin afin de voir ce que nous allons faire de son Fils Jésus-Christ qui, à la croix, a accompli l'œuvre du salut. Que signifie-t-elle pour vous, mes amis, cette croix? L'avez-vous regardée? Et comment l'avez-vous regardée? D'une façon neutre? Ou est-ce que vous avez saisi en elle la vie éternelle? Vous et moi, nous sommes des hommes coupables qui revenons des champs et il faut que la croix de Jésus soit mise sur nous et qu'elle accomplisse son œuvre. Chargez-vous de cette croix ainsi que votre famille et voici, c'est maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Et te voilà donc passant. Te voilà donc passant avec la croix de Jésus devant toi aujourd'hui et en ce jour où nous fêtons la Pâque. Nous nous souvenons que cette croix est vide. Elle est vide donc, et c'est le témoignage de la résurrection de Jésus. C'est le témoignage de sa toute-puissance, puisqu'il a vaincu la mort. Et c'est le gage aussi de sa promesse. « Parce que je vis, dit-il, vous vivrez aussi. » Alléluia. Mais en même temps, c'est aussi un appel à lui consacrer ta vie. Un appel à le servir. Un appel Ah oui, te sacrifier pour lui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Est-ce que tu vas passer ton chemin? Est-ce que tu vas passer ce culte? Est-ce que tu vas passer à autre chose? Est-ce que tu vas passer sur tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que tu vas retourner à tes petits plaisirs, tes petits projets, tes préoccupations auto-centrées, tes projets nombrilistes? Est-ce que tu vas retourner à ton idole qui a pour nom ma propre volonté, mes propres envies, désirs, priorités, ma propre façon de voir les choses, d'envisager l'avenir? Vous savez, Jésus n'a jamais forcé personne à porter sa croix. Dans le ciel, il n'y aura que des volontaires, des vrais volontaires. Hein ? Alors si c'est ça, eh bien passe, passant. À ce moment-là, passe, bon vent, bon courage, pour voyager au mieux, à l'ombre de la misère et de la médiocrité. Bon courage pour une existence pénible, t'appuyant que sur tes propres forces et tes propres capacités, qui de toute façon te lâcheront, de toute façon te décevront un jour. Bon courage pour le naufrage annoncé, inéluctable, qui se produira tôt ou tard, après beaucoup de déceptions. Et pour finir, dans la solitude aux effroyables hurlements pour l'éternité. Et tu auras beau t'agiter, tu auras beau te trémousser dans tous les sens, ce sera vain, tu iras là, parce que large est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est la grande loi, mon frère, tu n'y échapperas pas. Hein ? Mais étroite est la voie, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Vous savez, des fois, je regarde l'assemblée, je regarde les uns les autres, et je me pose la question, combien parmi nous seront au ciel? Grande question. Que vas-tu faire aujourd'hui? Alors, vous qui voulez vous charger de la croix de Jésus-Christ, nous allons faire un petit appel tout à l'heure, mais ne vous levez pas pour l'instant. Que chacun réfléchisse. Hein, ceux qui ne veulent pas d'inconvénients dans leur vie à cause de Christ, ceux qui ne veulent pas de combat, alors surtout restez assis. Surtout ne répondez pas à cet appel, parce que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui trouvent que c'est exagéré d'inviter les croyants à venir aux réunions plus souvent que le dimanche matin, surtout ne vous sentez pas non plus concernés par cet appel. Ceux qui veulent garder dans leur vie telle occupation douteuse, telle chose qui n'est pas la gloire de Dieu, il est évident qu'il n'est pas possible de prendre la croix de Jésus-Christ en même temps. Ceux qui ne prennent pas le temps, ni la peine de chercher la volonté de Dieu pour y obéir, mais qui ne veulent en faire qu'à leur tête, comment est-ce qu'ils pourraient prendre la croix de Christ et le suivre? De même que ceux qui ne veulent pas le servir dans la pratique. Voilà, ceci étant dit, eh bien ceux qui, en ce jour de Pâques, donc souvenir de la résurrection de notre Seigneur, veulent donner ou redonner leur cœur à Dieu, en vérité, en sincérité, eh bien, ils vont pouvoir se lever, ils vont pouvoir le faire. Nous allons chanter ensemble ce beau chant qui, le A252, jusqu'au bout, je veux te suivre, donc, qui nous appelle, la voix du Seigneur qui nous appelle. Donc, on va chanter ce chant, et ceux qui, à ce moment-là, veulent se lever, eh bien, ils pourront le faire en chantant et en prenant vraiment à cœur les paroles de ce chant pour se charger de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.